Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure. Et ce soir, on est ravis de recevoir le peintre Olivier Masse-Monteil.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
France Culture, Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Les tableaux doivent être miraculeux. À l'instant où l'un est achevé, l'intimité entre la création et le créateur est finie. Ce dernier est un étranger. Le tableau doit être pour lui, comme pour quiconque en fait l'expérience plus tard, la résolution inattendue et sans précédent d'un besoin éternellement familier. Ces phrases du peintre américain Mark Rothko racontent une partie de l'expérience devant certains de vos tableaux, Olivier Masse-Monteil, mais je rajouterai que la résolution n'a pas lieu. Quelques mystères demeurent. Qui était là ? Que s'est-il passé? Que viennent troubler ces lignes fluorescentes dans le paysage? Est-on dans la forêt ou dans un bassin olympique? Est-ce que l'horizon s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose? Le Centre d'art Nomade présente certaines de vos œuvres à Toulouse, à la Chapelle des Cordeliers. L'exposition s'appelle Tandem parce qu'elles sont accrochées en regard des œuvres de Marc Desgrandchamps. Ça, c'est jusqu'au 7 avril. On peut aussi voir nombreux de vos tableaux à la galerie Thomas Bernard. Ça, c'est à Paris. C'est une exposition qui se concentre sur le paysage. On y revient. Et enfin, à la galerie Seine Ouverte, quelques tableaux sont montrés jusqu'à la fin de la semaine en regard du travail de design de Nicolas Aubagnac. Ça fait plein de choses en même temps.
Oui.
Bonsoir à vous,
bonsoir.
Olivier Masse-Monteil. C'est bizarre que plein de choses en même temps soient montrées.
Oui, c'est pas tellement un hasard en fait. C'est parce que j'avais été peut-être un peu silencieux pendant quelques années, et il s'est trouvé que avec la préparation d'une monographie qui est sortie en novembre, plus l'exposition qui s'est préparée avec Thomas, les choses se sont aussi enchaînées avec la galerie Seine Ouverte et l'exposition avec Marc Desgrandchamps. Donc, comme souvent dans notre métier de peintre où on est un peu tout seul, tout d'un coup, les événements extérieurs arrivent dans l'atelier et créer comme ça une forme d'actualité un peu compulsive.
On va dire quand même que cette monographie est vraiment très belle, assez importante je pense, et elle est parue aux éditions Cercle d'Art. Il y a des textes et un entretien qui ponctue la présentation de nombreux de vos travaux. Est-ce que ça fait quelque chose de sentir ou de savoir, je sais pas quel terme utiliser, mais justement tous ces tableaux montrés à des lieux différents, est-ce que vous en avez une forme de, je sais pas, comme de conscience un peu spatiale?
Oui, en fait, c'est assez marrant parce que administrativement, ça se présente sous forme de fiche de prêt, mais
catalogue de toutes celles qui se promènent en ce moment.
Voilà, quoi. Oui, j'ai des dossiers avec les tableaux pour savoir à peu près où est-ce que je les situe, mais finalement, j'en ai pas trop besoin parce que je sais où est-ce qu'ils sont. Il y a un attachement qu'on a avec chacun de ces tableaux qui est assez particulier, et c'est assez amusant d'avoir plusieurs expositions en même temps, puisqu'on a l'impression qu'il y a un dialogue presque mystique qui s'opère entre les tableaux.
Et on va parler, peut-être vous serez surpris, mais c'est important, de pêche à la mouche.
Je pêche parce que j'aime pêcher. Parce que j'aime les lieux toujours splendides où vivent les truites et que j'aborde ceux invariablement laids où vivent les gens. Je pêche pour toutes les publicités télévisées, tous les cocktails et autres pince-fesses auxquels cette activité me permet d'échapper. Je pêche parce que, dans un monde où les hommes semblent pour la plupart passer leur vie à faire des choses qu'ils détestent, la pêche est pour moi à la fois une inépuisable source de joie et un petit acte de rébellion. Parce que les truites ne mentent ni ne trichent, et qu'elles ne se laissent pas acheter, ni corrompre, ni impressionner par une quelconque démonstration de pouvoir, on ne les gagne qu'à force de quiétude, d'humilité et de patience infinie. Parce qu'il m'est idée que les hommes ne font qu'un seul passage sur terre et que je ne voudrais pas gâcher le mien. parce que, Dieu soit loué, il n'y a pas de téléphone sur les rives des eaux attruites. Parce qu'il n'est que dans les bois que je puisse goûter la solitude de me sentir esselé. Parce que le bourbon est toujours meilleur quand on le boit dans un vieux gobelet de fer blanc, quelque part loin, là-bas. Parce que peut-être qu'un jour, j'attraperai une sirène. Et enfin, je pêche, non parce que je considère cela comme quelque chose de si terriblement important, mais parce que je soupçonne la plupart des autres préoccupations des hommes d'être tout aussi vaines et rarement aussi plaisantes.
Olivier Masmontet, je suis sûre que finalement ça vous étonne pas tant que ça, qu'on parle de pêche à la mouche. Alors c'est un texte qui est lu par Pierre Laplace, c'est un texte de John D. Walker, qui s'appelle « Testament d'un pêcheur à la mouche ». Parce que le matin où je suis entrée dans la galerie Thomas Bernard, assez rapidement il m'a dit que vous partagiez pas mal de choses, avoir fait les Beaux-Arts à Bordeaux, j'imagine avoir moult considérations sur la peinture et l'art en général, et aussi pêcher. Il m'en a pas dit davantage, mais la découverte de votre travail me dit que dans les mots là utilisés pour parler de la pêche à la mouche, il n'y a pas une si grande étrangeté que ceux qu'on pourrait utiliser parfois pour parler de la peinture.
Non, moi j'ai beaucoup fait de correspondance entre la pêche à la mouche et que je pratique depuis que je suis tout petit et la peinture. Pour moi, le pêcheur et le peintre, ce sont deux individus qui sont amoureux des surfaces ambiguës. La surface de la toile pour le peintre et la surface de l'eau pour le pêcheur. La surface de l'eau, c'est quelque chose de très étrange. C'est un corps transparent, l'eau. En même temps, il y a un reflet, on se voit dedans. On est un peu comme un narcisse à la pêche. J'aime beaucoup ce texte que vous avez passé parce que il me donne presque des frissons parce qu'il résume en très peu de phrases ce qui fait quelque part la légèreté du pêcheur et la légèreté du peintre, c'est-à-dire que la question du temps et de l'éphémère est très très important. C'est-à-dire qu'on a conscience de n'être que de passage. On a conscience qu'on est juste un petit acteur dans un environnement qui va être l'environnement du paysage pour le pêcheur, mais aussi l'environnement du paysage parfois pour le peintre. Et je pense que ces deux pratiques, pour moi, se nourrissent et me définissent assez bien.
Quand on entend aussi dans la voix de Pierre Laplace l'idée de la patience, de l'humilité, il parle même de la quiétude. C'est assez beau que en fait la truite ne s'obtient qu'avec quiétude. Je me suis dit, beaucoup de peintres parlent d'une forme d'animation très presque radicale, d'une sorte de passion. Mais est-ce que vous peignez avec cette quiétude, Olivier Masmontet?
En fait, c'est ce qu'on recherche, la quiétude. C'est un peu pour calmer, je pense, un intérieur très tourmenté, en fait. On est tous animés de sentiments contradictoires. Et c'est vrai que qu'on soit à la pêche ou qu'on soit dans l'atelier, on a des moments de colère, on a des moments d'acharnement. Moi, je rate une truite. Ça m'est arrivé de casser une canne à pêche parce que, voilà, c'était une colère. Et là, on se sent stupide. Pareil dans l'atelier, quand tout d'un coup, on rate un tableau, on a envie de lacérer. Et c'est vrai que cette colère nous ramène à une humanité peut-être violente et inutile. Et pour moi, la quiétude devient une quête, c'est-à-dire que l'eau, le paysage, la peinture, la pêche à la mouche sont des activités où on va chercher une forme d'apaisement, peut-être de contemplation aussi, un état dans lequel la plénitude va arriver.
Oui, parce que pour revenir sur cette question du regard et des surfaces ambiguës, c'est d'une part parce que c'est une très belle expression, mais puisque vous dites c'est depuis l'enfance, il y a quelque chose aussi de la manière dont vous observez ce dans quoi vous êtes, qu'on appelle la nature, ce dans quoi vous êtes, qu'on appelle le paysage, les éléments, le vivant. Est-ce que très directement vous faites le lien entre ça et le fait d'avoir choisi la peinture? Si c'est comme ça que ça se présente.
En fait, la peinture, ça, c'est un peu quelque chose que j'ai trouvé plus que j'ai cherché. C'est tout d'un coup dans les activités. Moi, j'ai pêché depuis tout petit et ça m'a semblé naturel. Et depuis tout petit, je dessinais, donc ça me semblait assez naturel. Et c'est que après l'adolescence que vraiment la notion de choix est arrivée en se disant ah bah tiens, ça, je vais en faire mon activité, la pêche et la peinture.
Dans la présentation que Thomas Bernard fait de votre exposition dans sa galerie à Paris, évidemment il est question du paysage et on va y arriver dans quelques instants, mais il est aussi question du statut de l'artiste et de la manière dont la peinture n'est pas pour vous une simple réflexion sur elle-même, sur la peinture elle-même, mais aussi sur l'évolution de l'artiste dans la société. Alors c'est pas quelque chose qui peut apparaître comme ça extrêmement évident quand on se promène au milieu de vos toiles, pourtant ça semble vous animer. De quelle manière ?
Ben en fait, moi, j'appartiens à une génération à qui on a dit la peinture, c'est un outil qui appartient au passé. Et comme beaucoup d'artistes de ma génération, plutôt que de nous décourager, ça nous a encouragé à peindre, mais en même temps, ça nous a encouragé à aller se plonger dans l'histoire de l'art. Et en se plongeant dans l'histoire de l'art, moi, je me suis aperçu que l'idée que la peinture était morte n'était pas une idée très récente, mais en fait, elle était inhérente à la définition de la peinture et à l'activité de peindre. La trace la plus ancienne que j'avais trouvée, c'était dans Pline l'Ancien, qui qualifiait la peinture romaine d'un art qui expire. Et puis ensuite, je me suis aperçu que tout au long de l'histoire de l'art, toutes les traces écrites témoignent de la mort de la peinture. En fait, ce qui change, c'est les critères pour lesquels on annonce la mort de la peinture. À la Renaissance, on annonçait la mort de la peinture à chaque chef-d'œuvre, parce qu'on disait c'est tellement beau qu'on ne pourra pas faire mieux. Exactement. Ensuite, au 19e siècle, c'est la modernité, ça va être l'appareil photo qui va annoncer la mort de la peinture. Et puis à chaque fois, la peinture en fait est comme un phénix qui renaît de ses cendres et qui va retrouver elle-même un nouveau moyen. Et justement, j'avais échangé une fois avec Gérard Garouste sur ce sujet et il m'avait dit, en fait, la peinture, à chaque étape, se débarrasse d'une mission qu'elle n'a plus à quelque part à avoir. Donc,
mais vers une libération alors du geste de peindre.
Exactement, c'est-à-dire que le jour où on a inventé l'appareil photo, il y avait quelque part le peintre s'est débarrassé de l'obligation du portrait de commande. Ça n'empêche pas qu'on continue à faire des portraits, mais pour d'autres raisons. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on avance en peinture, plus on arrive au cœur de la peinture, et c'est un peu cette quête intéressante que chaque peintre essaye de mener, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que je vais apporter moi en plus cette fois-ci.
Et alors, ça vous emmène, Olivier Massontaille, à l'élaboration de trois âges du peintre ou trois âges de la peinture qui seraient la possibilité de peindre.
Oui.
Quel lapsus bizarre. Dans un second temps, le plaisir de peindre. Et le troisième temps, ce serait
oublier la peinture ou détruire la peinture. En fait, ces trois chapitres que j'avais un peu distingués comme un peu un objectif de vie.
À quel moment dans votre parcours?
En fait, aux Beaux-Arts. Moi, j'étais assez admiratif du travail de Gazurowski et de la manière dont il mettait un dispositif de peinture en place avec son atelier fictif, avec toute cette mythologie autour de ça. Et je m'étais penché un peu sur aussi qu'est-ce que c'était qu'un parcours de peintre et à quoi ça correspondait. Et je me suis aperçu que tous les peintres que j'aimais, que ça soit Titien, que ça soit Soulages ou Monet, ont distingué trois âges dans la vie. L'âge qui était là pour moi la possibilité de peindre, qui est l'âge de l'apprentissage. Ensuite, il y a un âge très très grand dans lequel il y a l'épanouissement de l'œuvre, qui va être la période maniériste pour Titien, qui va être toute la période impressionniste pour Monet.
Mais aussi le plaisir du peintre, si on vous croit.
Oui, voilà, c'est le plaisir du peintre, ça, cette partie-là, voilà, c'est celle que j'appelle le plaisir du peintre. Et après, il y a une troisième partie qui est un peu plus spirituelle, peut-être plus étrange, où on sent que chaque artiste va être comme ça, face aux épreuves de la vie, va changer peut-être un peu sa conception de la peinture et même de la vie. On va voir la palette de Titien qui va s'assombrir, des thèmes religieux qui vont arriver. C'est ce troisième âge où Monet va se consacrer au bassin des Nymphéas, à Soulages va se consacrer à l'Outre-Noir. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'échappe à la règle. Moi, je vais avoir un parcours qui va ressembler à ça. Et plutôt que de subir ces trois parties dans mon travail, je vais essayer de les identifier au moment où elles arrivent.
Et là, vous seriez dans ?
Moi, je suis dans le plaisir de peindre en ce moment, puisque j'ai passé près de 15 ans à travailler sur le paysage. Et le paysage a constitué pour moi un apprentissage en peinture. Et c'est ce que j'ai appelé la possibilité de peindre. C'était une possibilité technique, mais c'était aussi une possibilité de comprendre quels étaient les enjeux de la peinture. Et je l'ai fait grâce au paysage.
On va y revenir dans un instant, mais à vous écouter, je me dis, c'est comme si presque la légende ou le discours autour du peintre et de la peinture était aussi intéressant pour vous, passionnant pour vous, que le geste même de peindre, Olivier Massontaille.
Oui, il y a un dialogue. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on est animé de contradictions, on est animé de plein de choses, d'un instinct et d'une réflexion. Et en permanence, dans l'atelier, la toile agit comme un miroir. Et on est par moments en action de peinture, donc en action de peinture, il y a l'odeur de la peinture, la matière, les contraintes de la matière, la couleur, on est sale, on a... Et puis, tout d'un coup, la toile va nous renvoyer quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Soulages qui dit « c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche ». Et je pense que c'est la meilleure définition de la peinture. C'est vraiment ce jeu de miroir où on met en place de façon instinctive un processus de peinture. Et puis après, on se met dans l'action. Dans cette action, on oublie peut-être un peu la pensée. Puis tout d'un coup, on a comme un jeu de miroir qui nous renvoie à quelque chose qu'on ne soupçonnait.
Encore faut-il l'accepter.
Ah, oui, après, c'est un jeu comme ça. Alors, c'est, je pense que dans l'atelier, il se passe des tas de choses comme ça, très épuisantes, parce que on va se retrouver par moments face à des contradictions, face à des choses qui nous plaisent pas, face à une image de nous-mêmes qu'on n'avait pas imaginée. Pour résumer ça simplement, tout d'un coup, on se pense comme étant un peintre abstrait, et puis tout d'un coup, il y a une figure qui arrive. Et on
Qu'est-ce
se dit,
que ah, tu fous là ?
Et voilà, et on se dit, je suis figuratif, en fait. Et c'est ça toute la journée.
Vous savez, les paysages, c'est un thème constant chez moi. J'y reviens par goût. J'y reviens aussi un peu pour vérifier que j'ai toujours les pieds par terre. Que je ne me suis pas embarqué dans des choses qui seraient justement un peu des discours ou de la polémique. Hein, chose dont j'ai horreur. La polémique, pour moi, c'est une forme de démagogie épouvantable. Certaines écoles de peinture à qui je l'ai beaucoup reproché. Le fait est que je reviens au paysage pour me nettoyer les yeux, quoi, hein, tout simplement. Et puis, alors, j'ai découvert quand même que le paysage pouvait parfaitement être politique, puisque, je vous dis, un arbre, ça a quelque chose de subversif, de mon point de vue, et beaucoup de choses de la nature sont comme ça. Quand je m'apprête à aborder le thème, que je suis prêt, que j'ai le sentiment... Le besoin impérieux. Il y a aussi une période qui peut être plus ou moins longue, pas très longue naturellement, mais c'est le calcul des formats. C'est une chose très importante, à quelques centimètres près, un peu plus large, un peu moins, un peu plus en hauteur, un peu plus en... Et puis, est-ce que ce tableau que j'ai en vue va s'exprimer au maximum de sa tension dans un tableau de 2 mètres par 2 mètres ou de 4 mètres par 4 mètres. Hein. Je vous donne des échelles un peu exagérées, naturellement. Je sais bien que je ne vais pas passer de 2 mètres à 4 mètres, mais entre 2,20 mètres et 2 mètres, ça peut modifier beaucoup de choses, bah, pour moi. Point de vue, je dirais, purement plastique, technique, mais aussi au point de vue manifeste, en quelque sorte.
1991, de la voix du peintre Paul Rebérol au micro de Marc Vaudet dans les entretiens à voix nue diffusés sur France Culture. Olivier Masmontaille, peut-être pour parler avec vous de plein de choses, à savoir le Limousin que vous avez en commun, mais aussi l'expression qu'il utilise, revenir au paysage pour se nettoyer les yeux. Alors dans revenir au paysage pour se nettoyer les yeux, il y a revenir au paysage. Est-ce que c'est comme ça qu'on procède forcément? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a toujours une sorte de retour au paysage quand on fait de la peinture?
Je pense que le paysage est un support très très important. Déjà, ça me fait très plaisir d'entendre Paul Rebérol parce que j'ai eu la chance de le rencontrer qu'une seule fois dans ma vie et c'est quelqu'un qui est vraiment à l'origine de mon goût pour la peinture. L'espace des Moutiers, c'est un lieu où j'allais tout le temps pour regarder ces immenses paysages qu'il faisait. Et c'est vrai que à cette époque-là, moi, ça m'a décomplexé sur l'idée du paysage, de prendre des sujets de peinture comme ça, qui sont les grands thèmes de la peinture. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le paysage? Déjà, il faut savoir qu'à la Renaissance, c'est comme ça qu'on apprenait à peindre. C'est-à-dire que quand on rentrait dans un atelier de peinture, la première chose qu'on confiait au peintre, c'était la réalisation du ciel ou des nuages, et ça permettait un peu de rentrer en peinture. Ensuite, je pense que le rapport que Paul Rebérol a au paysage est un peu le même que le mien, c'est-à-dire qu'il est pêcheur à la mouche, il allait souvent pêcher avec Riopelle, ils étaient là-dessus, ils ont fait un peu le tour du monde pour se confronter au paysage, aux truites et à la peinture. Et pour moi, il y a une notion dans le paysage un peu d'infini, il y a une notion d'intemporalité aussi. Et c'est vrai que les peintres, on a cette fascination pour des choses qu'on va essayer de s'approprier pour essayer d'être des maîtres d'illusion quelque part. C'est-à-dire que la profondeur de champ, c'est quelque chose qui va nous fasciner. La lumière, c'est quelque chose qui va nous fasciner. Souvent aussi les jeux de transparence ou les brillances. C'est-à-dire, quelque part, quand on sait qu'on est capable de créer l'illusion de la profondeur, l'illusion de la lumière, l'illusion de la transparence, eh ben, quelque part, on se jette des petits défis comme ça entre peintres. Mais je pense que au-delà
Mais comme un rapport à la maîtrise du geste?
Voilà, il y a d'abord ce rapport à la maîtrise du geste, parce que comme tout homme, on est faible aussi, on aime bien faire la démonstration qu'on est fort, qu'on arrive à créer l'illusion de la troisième dimension ou des choses comme ça, mais plus profondément, je pense que la maîtrise de ces problématiques de picturales qui sont la profondeur, la lumière, la matière, la transparence, sont attachées aussi à une forme de pensée. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on va considérer le tableau comme une fenêtre ou comme un mur, on va avoir comme ça une façon de s'exprimer. On va avoir, comme je le disais tout à l'heure, ce rapport au miroir que nous est proposé le tableau dans l'atelier. Un jeu de va-et-vient comme ça sur une espèce de problématique qu'on met en place. On va se dire, tiens, je vais essayer de créer l'illusion de la distance la plus lointaine possible à travers un tableau qui n'a que deux dimensions. Je vais aussi essayer de créer l'illusion de la lumière, créer l'illusion du temps aussi, d'une forme de temporalité. Et c'est une sorte de victoire, quelque part, à chaque fois qu'on s'est dit, tiens, je n'ai utilisé que de la peinture et de la couleur, je n'ai utilisé qu'un support, une toile, et au final, j'ai réussi à parler de tas de choses. Quoi,
mais comme à la base un défi technique, Olivier Masmontaille, c'est-à-dire pour dire de quoi est capable la peinture.
En fait, c'est pas tellement...
De quoi suis-je capable avec la peinture?
C'est pas tant un défi technique, c'est une contrainte, en fait, technique. C'est-à-dire qu'on sait que le champ dans lequel on va s'exprimer est une contrainte à la base. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de maîtriser sa contrainte. Quoi. La couleur, c'est comme un cheval au galop, et il va falloir essayer de le maîtriser, de le dresser, de le comprendre, mais en même temps, faut pas brusquer les outils dont qu'on utilise, un peu comme sur la pêche à la mouche, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va essayer d'aller capturer un poisson en le leurrant avec une plume qui va imiter un insecte, ça va être très léger, ça va être sur l'eau, on va pas y aller, si on veut être efficace, on prend un chalutier puis on ramasse tout ce qu'il y a dans la rivière. Là, en peinture, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il faut comprendre les outils qu'on va utiliser, bien les maîtriser, et ça, il y a une notion de temps qui est très très importante.
C'est-à-dire
presque de métier d'artisan qui rentre en compte.
Et il y a un moment donné où quand même ça vous dépasse, ou ça dépasse les seules questions d'artisanat et de technique. Quand vous vous lancez dans une série de 1000 tableaux plutôt en petit format, Olivier Masmontaille, qui sont uniquement consacrés au paysage, ou lorsqu'on voit dans la galerie Thomas Bernard uniquement des paysages et certains traversés de lignes qui ne sont plus des lignes d'horizon, qui peuvent être des voitures passant hyper vite, ou qui peuvent être juste des hallucinations de couleurs, on se rend bien compte que vous vous déplacez quand même du simple désir d'illusion et de rendre au plus précis le paysage que vous avez devant vous.
Exactement. Mais comme très souvent, quand on est comme ça dans l'atelier en train de peindre, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Et en fait, l'histoire technique n'est là que comme une contrainte, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, ce qu'il y a, c'est il y a une forme d'intuition. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de comprendre, c'est quelle est cette intuition qui nous pousse
à mettre... Pourquoi je fais ça ?
Pourquoi je fais ça ? Et pourquoi avec autant d'énergie ? Pourquoi avec autant peut-être de passion ? Pourquoi avec autant d'interrogations ? Pourquoi ne pas me satisfaire de ce que je sais faire aussi ? Parce que ça aussi, c'est une question. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a l'impression qu'on a passé une étape technique, on se dit, tiens, je pourrais m'en satisfaire comme un artisan et à ce moment-là, faire des très beaux ciels avec des très beaux nuages. Et non, ça ne me satisfait se fait pas, et je vais essayer de rebasculer vers une abstraction, ou au contraire revenir vers une figuration, mais en fait j'ai plus de questions que de réponses à ce moment-là.
C'est-à-dire que ces lignes colorées, ou bien, je ne sais pas si c'est rapproché dans le temps, mais ces silhouettes extrêmement subtiles, voire très incertaines, en couleurs qui se détachent, et on ne sait pas si elles sont apparues ou si elles sont en train de disparaître, elles viennent comme des questions qui vous sont adressées dans l'atelier.
Voilà, elles viennent un peu comme des questions, et puis elles viennent aussi de manière différente à chaque fois. C'est-à-dire que pour la série spécifiquement des lignes d'horizon, c'est une série que j'avais fait entre 2004 et 2006 et que j'ai refait récemment. Et entre les 10 ans qui ont séparé les deux mêmes séries qui procèdent un peu du même protocole, je me suis aperçu que j'avais eu mes deux tours du monde entre les deux. Il y avait eu le voyage, il y avait eu la quête de l'horizon. Et alors qu'en 2004-2006, je traitais les mêmes façons de peindre pour une problématique qui était peut-être plus figuration-abstraction, aujourd'hui, elle est plus dans une question, c'est quoi l'horizon, c'est quoi la quête du temps, c'est quoi la mémoire, le souvenir. Donc en fait, c'est pareil, en même temps qu'on peint, on vieillit. Donc on accompagne aussi son travail.
Et pour ce qui est des silhouettes ?
Ce qui est des silhouettes, ça c'est une série qui s'appelle Les Baigneuses. Et cette série-là, elle s'interrogeait aussi.
Que les gens aient quand même quelques images en tête, ce ne sont pas, pour ces tableaux-là, en tout cas, des corps qui apparaissent à part entière, en chair et en os.
Voilà, ils ne sont pas incarnés.
Vraiment pas.
Non. Voilà. C'est plus des fantômes, et ils agissent autant comme apparition que comme disparition. Et pour moi, c'est né des jeux de transparence en peinture. C'est-à-dire qu'un peintre, il n'a que deux dimensions pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un musicien, d'un écrivain ou d'un cinéaste qui va inscrire son récit dans un début, un milieu, une fin. Un peintre, il a que deux dimensions, donc tout va être frontal. Donc pour inscrire une temporalité, il va falloir qu'il trouve des astuces. Donc certains peintres ont trouvé des astuces symboliques, donc on va mettre un sablier, on va mettre comme ça un livre ouvert. D'autres vont trouver des dispositifs de mise en scène, donc on va voir comme ça dans les Ménines de Velázquez un jeu de regard qui vont faire qu'on sent qu'il y a un avant, un pendant et un après. Et puis moi j'ai décidé de procéder par une technique que j'aime beaucoup qui s'appelle le repentir. Le repentir, c'est quand on efface partiellement ou qu'on laisse apparaître partiellement un élément et qu'on joue sur ce jeu de transparence qui va induire une temporalité. Et ces baigneuses, pour moi, qui incarnent un peu aussi la complicité de la peinture avec l'artiste, puisque en fait, elles sont issues du thème de Diane Aubin ou de Suzanne et les Vieillards, qui sont des thèmes chers aux peintres, qui voient dans ces histoires une métaphore de l'artiste voyeur, comme ça, qui a la capacité de voir ce que les autres n'ont pas le droit de voir. J'y vois comme ça une façon de jouer sur une apparition ou une disparition, c'est-à-dire que quand on est face au tableau, on est incapable de dire si ces baigneuses sont en train d'apparaître, de disparaître, est-ce qu'elles sont dans la même temporalité du paysage dans lequel elles se trouvent, ou dans une autre, dans un ailleurs, et ça permet comme ça d'enclencher une narration dans le tableau.
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Olivier Masmonteil.
Toujours différent le ciel, mais c'est toujours la lumière vient de et des nuages, et s'il y a beaucoup de nuages, c'est pas une lumière qui a un ciel complètement dégagé, même ne serait-ce qu'une fin de journée. Donc c'est là qu'il intervient le hasard tout le temps, mais parce que sinon tous les jours c'est la même opération hein, qui se reproduit. Et pourtant, tous les jours, c'est différent. Donc le hasard, il est là, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de hasard, non, quand vous peignez, parce que sinon... Il faudrait y avoir des accidents, ou je sais pas. Par exemple, avoir été trop fort dans un mouvement, ou avoir décidé de partir dans un truc qui soit plutôt lumineux, et puis d'un seul coup, de se retrouver à poser une valeur qui est un peu sombre, et puis de se rendre compte que ça donne un truc intéressant. Donc ça on peut dire que c'est le hasard peut-être. Et puis de l'exploiter, donc se retrouver dans un cas de figure qui est complètement à l'inverse. C'est au lieu d'avoir un nuage qui devait être plus lumineux, bah, il se retrouve plus sombre, mais avec de la lumière autour, qui fait que ça va toujours dans le même sens, mais c'est un négatif ou un positif, quoi, d'un seul coup. Donc ça change un peu la donne, mais ça... Ça peut marcher comme ça aussi, des fois, oui. Enfin, c'est rare, quand même, parce que c'est quand même beaucoup de lumière, et quand c'est posé, quoi. Il faut prendre du recul aussi, hein. Ça, c'est minimum. Quand c'est 20 mètres, ou 30 mètres, ou 50 mètres, et que vous êtes dessus, à 50 cm, la vision n'est plus du tout la même, hein. Donc j'arrive à voir un certain recul comme ça en étant de près, mais j'ai besoin quand même, comme tout le monde, de prendre un vrai recul, de regarder des fois de passer plus de temps à regarder la toile qu'à peindre.
C'est la voix du peintre José Garcia Cordero dans une archive de 2007. C'était une série sur les docks par Simon Guibert sur France Culture qui parle de la manière dont il fait les ciels, dont il fait apparaître les ciels. Mais j'aime bien aussi cette fin d'archive où il parle du temps passé à regarder les tableaux, parfois plus important que le temps passé à les peindre. C'est vrai que s'il reste dans l'atelier, on peut imaginer que ça peut durer très très longtemps. Est-ce que c'est aussi votre cas, Olivier Masse-Monteil ? Est-ce que vous les regardez beaucoup, vos tableaux ?
Oui, je pense que d'ailleurs, la plupart des peintres passent plus de temps à regarder leurs tableaux qu'à les peindre, parce qu'il y a ce rapport, évidemment, avec ce qu'on dépose sur la toile. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que dit ce peintre, c'est que il y a un rapport à l'objet. C'est-à-dire que un tableau, ça reste un objet sensible à appréhender. C'est-à-dire que si on est loin, c'est pas la même chose que si on est près. Si on se retrouve devant les nymphéas de Monet, par exemple, on va avoir une expérience quand on est au milieu de la salle, au milieu des nymphéas, et quand on est à 15 cm du tableau où on est noyé dedans. Et tout d'un coup, pour moi, ça fait partie d'un des enjeux de la peinture, de comprendre qu'on n'est pas seulement dans la représentation d'une image ou la représentation habile d'une image, mais on est dans une expérience sensible. Et cette expérience sensible, elle est vécue dans l'atelier par le peintre quand on l'a fait, mais elle est vécue après par le spectateur quand il la voit. Et moi j'aime beaucoup cette idée que le tableau est un lien entre le spectateur et l'artiste. L'artiste va lui mettre en place un dispositif, va travailler dans l'atelier, se poser des questions qui sont pertinentes ou non, mais par contre le résultat va être proposé au spectateur et ce spectateur va avoir une façon d'appréhender le tableau sensible. Donc il va se mettre près, puis après il va se mettre loin, puis après il va se mettre de côté, et puis après il va commencer un dialogue avec le tableau. Il va dire, ah tiens, pourquoi le ciel, on dirait que c'est le matin, puis non, en fait c'est le soir, et puis on va s'apercevoir que la temporalité du tableau est plus ambiguë que ça, donc on va se dire, ah tiens, comment ça se fait que j'arrive pas à définir si c'est un matin ou un soir, comment ça se fait que l'horizon est si bas, ou comment ça se fait que l'horizon est si haut, et à partir du moment où ce dialogue s'instaure, la relation à l'œuvre d'art commence.
Spectateur qui peut être vous-même.
Oui, moi je suis le premier spectateur en fait. Et c'est une position assez bizarre parce que on fabrique et puis en même temps on regarde. Mmh. Et là, depuis 2 ans, je mène une expérience que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je ne travaille plus seul dans l'atelier. C'est que très souvent, j'ai un assistant qui est avec moi. Et en fait, le fait d'être deux à travailler en même temps sur une même toile implique qu'il y a mon regard et son regard. Et en fait, on a une façon peut-être plus aiguisée de peindre quand on est tous les deux.
Ce qui est une expérience sur laquelle vous revenez dans le catalogue, dans l'entretien avec Mathieu Mercier, où vous semblez dire que vous avez vous-même été assistant de peintre et avoir appris beaucoup de cette position-là, notamment sur la déprise de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous pouvez préciser, Olivier Masse-Monteil ?
Ben, en fait, on est, comme je le disais au début, on est un artisan. Mais on est un artisan qui se regarde faire. Et en même temps qu'on le fait très souvent. Donc il y a un recul dans l'atelier d'acteur-spectateur.
Et quand on fait pour quelqu'un d'autre ? Alors, enfin, entre guillemets, pour quelqu'un d'autre.
Quand on fait pour quelqu'un d'autre, on est plus un exécutant et on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un et d'essayer de comprendre la manière dont la personne veut qu'on dépose la toile sur quand il s'agit de peinture, la peinture sur la toile, pardon. Et de la même manière, je crois que Mathieu Mercier avait été assistant comme ça de sculpteur, et c'était de comprendre quelle était l'intention. Et en fait, quand on se glisse comme ça dans l'impôt d'un artiste pour essayer de comprendre son intention, on commence à toucher du doigt, surtout quand on débute, ce que c'est que le mystère de la création, et on s'aperçoit que que l'artiste pour lequel on travaille, il en sait pas plus que nous sur le résultat de l'œuvre. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va savoir, c'est comment maîtriser cette intuition, comment être attentif à l'œuvre en train de se faire. Et c'est ça qui, pour moi, va créer un peu la maturité d'un artiste, c'est qu'il est très attentif à tout ce qui est en train de se faire.
Et les assistants et assistantes, vous leur parlez comment ? Vous le parlez avec quels mots ? Est-ce que c'est des choses très 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 précises ? Est-ce que c'est des impressions ? Est-ce que c'est parce que quand même, du coup, vous avez une attente singulière de leurs gestes.
Très souvent, la palette est en commun, c'est-à-dire qu'on travaille avec des grandes palettes Et moi, j'essaye de définir déjà le champ chromatique sur lequel on va travailler. Et après, je donne des instructions qui vont être sur la matière même, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être plutôt maigre, plutôt grasse, plutôt en épaisseur, plutôt fine. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler des couches relativement maigres et avec très peu de matière. Je leur indique à quelle étape il faut brosser les tableaux, comment il faut les arrêter. Je leur montre comment on fait une mise au carreau. Ça peut aussi être comment on tend un châssis, comment le métier débute. Mais il y a beaucoup comme ça d'éléments. Qui fait qu'on apprend aussi ensemble. C'est-à-dire que c'est ça qui me fascine dans le travail d'atelier, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en fait, c'est le travail d'atelier comme il a été fait à la Renaissance, c'est comment l'élève apprend du maître, mais le maître apprend de l'élève aussi.
Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Masmonteil, sur le parallèle entre votre réflexion, votre pratique sur la peinture, ce qu'elle peut, ce qu'elle est pour vous, ce qu'elle est pour celui ou celle qui regarde, et le statut de l'artiste. Parce que lorsque vous parlez là de la manière dont vous travaillez en atelier, on est très loin de la vision de l'artiste solitaire, qui est seul avec sa matière, seul avec son inspiration, seul avec sa réalisation. Comme si vous étiez dans cette deuxième âge de votre vie de peintre, le plaisir de peindre, c'est à plusieurs.
Oui, et puis en même temps, ce qui est assez amusant, c'est que en France, on a beaucoup l'image de ce peintre solitaire qui peint dans sa mansarde, qui correspond à une période assez courte en fait de l'histoire de l'art. L'artiste a travaillé en atelier jusqu'à la milieu du 19e siècle. En fait, ce qu'il fait travailler seul, ça va être l'apparition du tube de couleur qui va lui permettre une certaine autonomie et une conservation de la peinture à l'huile. Donc à ce moment-là, il va gagner en autonomie. C'est aussi derrière une idée un peu romantique aussi de la peinture. Mais la peinture est beaucoup plus complexe que ça. Et effectivement, elle peut se faire seule, elle peut se faire à plusieurs, en collectif. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui peignent à quatre mains. Ça se fait de plus en plus souvent. Je pense à Ida Turcic et Wilfried Mill, par exemple, qui, eux, travaillent ensemble à la réalisation d'un tableau.
Comment est-ce qu'il faut comprendre dans l'exposition à la galerie Thomas Bernard l'idée qu'on s'appuie sur le paysage comme sur une base ? Parce que c'est vrai qu'on voit quasiment uniquement cela, sur des tableaux assez différents, mais tout de même, comme si c'était, ok, si on doit y aller par étapes, on commence par ça.
En fait, quand on a décidé de faire cette exposition avec Thomas m'a dit « il faut qu'on commence l'aventure ensemble par le paysage ». C'est comme ça que toi, tu l'as commencé. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts, tu peignais des paysages. On est tous les deux pêcheurs à la mouche. On va prendre le chemin le plus simple, le plus évident pour raconter ton histoire, notre histoire et comment on va la construire ensemble. Et c'est lui qui m'a incité à revenir sur le paysage pour cette première exposition. Et je pense que son intuition était bonne parce que, comme je vous le disais, je pense que le parcours d'un artiste est parsemé comme ça de chapitres ou d'étapes. Et en dehors des trois étapes que j'ai décrites tout à l'heure, les trois chapitres de la vie d'un peintre, je suis en train de découvrir que de façon souterraine, il y en a d'autres, peut-être plus difficiles à appréhender, qui vont être des grandes étapes de la vie. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai 20 ans de peinture. Le fait tout d'un coup de repeindre des paysages comme je l'avais fait quand j'avais 30 ans, m'interroge aussi sur mon histoire, mon parcours, sur qui je suis.
D'ailleurs, c'est assez perturbant, puisque quand on se promène dans cette exposition-là, alors je sais pas ce que vous présentez à Toulouse avec Marc Desgrandchamps, mais c'est complètement dépeuplé. Si on considère que les papillons est un genre de peuple un peu différent du peuple humain. Et quand on ouvre la monographie, d'un seul coup, il y a plein de monde, il y a l'histoire de la peinture qui est extrêmement présente, avec ces histoires de repentir, il y a beaucoup de corps, même s'ils ne sont qu'apparaissants, ou alors parfois beaucoup plus qu'apparaissants. C'est bien, il y a plus foule, quoi, en fait, dans le reste de votre peinture, si on le prend dans ce sens-là, Olivier.
Alors, si on va à Toulouse, en fait, les baigneuses sont à Toulouse, elles sont parties à Toulouse, et effectivement, quand vous me posiez la question, je pensais à un élément en fait de la genèse. En fait, tout d'un coup, on va commencer par séparer la terre du haut de la terre du bas, et puis va naître la lumière. Bah, c'est peut-être un peu ça aussi. On s'est dit, on va commencer avec le paysage parce que c'est quelque part le décor en fait. Avec Thomas, on a décidé d'entamer une collaboration et une manière de travailler. Et quelque part, on est en train de proposer le décor. Et dans ce décor, il va se passer des tas de choses. Il va y avoir plusieurs expositions qui suivront. Certaines, on en a l'intuition. D'autres vont naître aussi au cours de nos échanges et de nos dialogues. Et je pense que le paysage est une bonne façon de démarrer.
Et il y a plein de ciel dans cette exposition. Et peut-être pour clôturer ce chapitre-là et revenir sur ce que disait José García Cordero, même s'il ne prononce pas, lui, le caractère, on va dire, spirituel ou un petit peu plus grand que l'humain, on sent quand même que, et puis vous citez à l'instant la Genèse, on sent quand même que dans l'idée de représenter à ce point-là des ciels, il y a une aspiration vers le plus grand que l'humain.
Il y a ça, et puis ce qu'il y a de, enfin quelque part, le ciel, c'est ce qu'il y a de plus grand à appréhender en tant qu'être humain. C'est-à-dire que quand on se promène dans la nature, quand on regarde le ciel, les yeux ne peuvent pas couvrir plus que le ciel. Et le fait de rendre ça sur un tableau...
Et pas tout en même temps. Et pas tout le ciel qui nous entoure en même temps. Généralement, on n'est pas capable.
Non, on n'est pas capable. Mais c'est pour ça, c'est la notion peut-être d'infini ou de grandeur maximum. Mais le fait de le mettre sur un tableau, et encore plus quand c'est un petit tableau, c'est peut-être ce fantasme d'aller mettre l'infiniment grand dans une surface qui va être délimitée.
Tes pieds, mon amour, à tout jamais je baiserai. Ta voix de velours, je m'incline et j'y obéirai. Telle une pompe à lourd, en farine et rococo parée. Des plus beaux atours, à tes pieds je me jetterai. Vois comme je me couche, au sein de tes draps alanguis. Rien ne m'effarouche, je suis ta diva, ton Odalis. À tes forteresses, son amour et je m'abandonne. Pour l'éternité, je suis ta nana et ta
Le titre lui-même du tableau n'est pas très ancien, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Et je crois véritablement que ce que Poussin a voulu un petit peu indiquer, c'est que l'inspiration est une chose bien mystérieuse, que les dieux vous donnent, Apollon vous délivre, et que le destin frappe certains plus que d'autres, sans qu'on puisse très bien en analyser l'origine. La notion du destin est qui frappe certains, parfois en bien, parfois en mal, qui les inspire, ou qui au contraire leur joue des tours tout à fait désastreux, est absolument essentiel pour comprendre l'œuvre de Poussin. Et au fond, l'inspiration du poète, c'est un peu ça aussi. Pourquoi celui-là ?
Peut-être serait-il temps que vous puissiez nous décrire ce tableau.
Mais c'est tout simplement un poète qui est couronné par un amour, et devant lui, il y a Apollon qui tient sa lyre, du moins qui s'appuie sur sa lyre, et qui pointe du doigt vers le livre, qui indique le livre sur lequel le poète inscrit son œuvre. Il y a un autre amour, et il y a une muse sur la gauche. Et ce qui est très frappant dans le tableau, c'est la monumentalité de la composition, qui est très exceptionnelle chez Poussin. Ce qui est aussi très frappant, ce sont de grandes sculptures, en fait, que Poussin peint. Le côté sculpture de l'œuvre est très évident. Et là, je crois qu'il y a aussi l'idée que c'est l'Antiquité qu'il a tant admiré, qui pour lui était le siècle d'or. Et en fait, tout son effort a constitué à tenter de recréer dans ses tableaux ce qui lui, pour lui, était ce siècle d'or de l'Antiquité disparue, l'Antiquité romaine ou grecque, puisqu'on parlait plutôt de Grèce. Et je crois que s'il peint des sculptures, des grandes sculptures romaines, c'est justement pour indiquer que c'est à cette époque que se sont créées les grandes œuvres.
Alors, on parlait de la manière dont l'histoire, parfois, de la peinture apparaît plus ou moins distinctement dans votre travail, Olivier Masmonteil. On écoute Pierre Rosenberg, grand spécialiste de Poussin et ancien directeur du musée du Louvre, parler d'un tableau qui s'appelle L'inspiration du poète. C'est un tableau, L'inspiration du poète de Poussin, qui semble avoir compté. Poussin semble avoir compté lui aussi, et qu'on peut en ce moment voir dans la galerie Scène Ouverte, puisque ça donne aussi le nom, ça donne aussi inspiration à l'un des tableaux qu'on peut voir en ce moment à la Scène Ouverte.
Exactement. En fait, Nicolas Poussin, c'est un peintre assez fascinant pour beaucoup d'artistes, d'artistes en règle générale et même de peintres. C'est quelqu'un qui, justement, va jouer ce côté intellectuel et sensible en même temps. C'est-à-dire qu'on va retrouver cet affrontement dans son travail de façon très forte. Et l'inspiration du poète, c'est un tableau fascinant. Déjà, c'est un all-over, comme le dit Pierre Rosenberg.
Ça veut dire quoi ?
All-over, c'est-à-dire que là, pour le coup, le paysage, il est vraiment derrière, il est bouché par les personnages, par la composition qui envahissent tout le tableau. Donc on sent que vraiment le sujet va être l'inspiration de façon évidente. Et moi, ce que j'aime dans ce travail, quand je me réapproprie ces tableaux de l'histoire de l'art, c'est vraiment de me refondre dans la peau de l'artiste. Comme on le disait tout à l'heure, quand on est assistant, on se met dans la peau d'un artiste. La chance qu'on a avec les tableaux, comme ça, quand on les copie, c'est d'avoir l'impression de se mettre dans la peau d'un artiste qui n'est plus là.
Et concrètement, ça veut dire vous commencez par la base d'une copie simple.
Exactement. Je fais vraiment un travail de copiste. C'est vraiment la première partie. Et l'idée du copiste, c'est de s'approprier le travail. Et par moment, on est en train de peindre ce tableau et on se dit la palette de Poussin, elle devait ressembler à ça. Il devait en être à cette étape-là. Et des fois, on a vraiment la confirmation de cette intuition parce que on enchaîne avec une touche la suivante, avec une logique imparable. Et on se dit voilà. Et c'est comme ça qu'il l'a fait. Et je sais que c'est comme ça qu'il l'a fait parce que je l'ai fabriqué moi aussi. Donc ça, cette première étape, pour moi, elle est passionnante parce qu'elle me replonge dans cette histoire de l'art. Et pour moi, l'art contemporain est lié aussi à ce phénomène d'appropriation aujourd'hui des œuvres du passé, mais d'autres supports. Et l'inspiration du poète, c'est un tableau qui m'a toujours fasciné par sa composition. Quand on le copie, on s'aperçoit que tout est parfait, c'est-à-dire que les lignes se croisent les unes avec les autres, et il y a une sorte de logique imparable. Et quelque part, il est très facile à copier, entre guillemets, parce que la main est quasiment guidée d'une ligne à l'autre. C'est-à-dire que tout se coordonne parfaitement bien.
Alors après, vous procédez par des espèces d'étapes de recouvrement ?
Oui, alors là, je me suis aidé d'un sérigraphe qui vient travailler à l'atelier. C'est un travail qu'on a mis en place ensemble. Moi, ce que je voulais, c'était jouer cette superposition de couches par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apparition et la disparition. Je voulais rajouter, après la série des baigneuses, une couche peut-être un peu plus abstraite. Et au début, l'idée, c'était de faire des formes géométriques qui venaient masquer le tableau originel. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à cette idée que de forme abstraite, de la fenêtre, on pouvait aller au mur et du mur au papier peint. Donc ça a été un peu mon cheminement. Et du papier peint, je me suis dit, ah bah tiens, on va reproduire un peu cette façon très géométrique de peindre. Sachant que j'en avais fait il y a 20 ans, comme ça je m'étais amusé à reproduire des papiers peints sur des tableaux. Et là, c'est là où l'assistant m'a dit, mais moi je connais un sérigraphe. Donc on a appelé le sérigraphe, je lui ai montré ce que je faisais. Il me dit, ouais non mais à la sérigraphie à l'huile, c'est pas possible. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer quand même.
Du coup, faut déchasser la toile,
faut faire des expériences. On a raté des choses, parce que pour faire simple, la sérigraphie, c'est un procédé qui est inventé par les Chinois au 9e siècle, et c'est un peu le principe du pochoir. C'est comme ça que la Marilyn de Warhol a été faite. Il y a beaucoup de peintres maintenant qui travaillent avec ça, mais ça doit se travailler avec une encre particulière, et l'huile, il a fallu fabriquer une huile qui puisse traverser l'écran, mais qui se délite pas derrière. Donc voilà, il y a eu un petit, il y a eu 2 mois comme ça d'expérimentation, et maintenant c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, et on arrive comme ça à créer un voile sur la peinture et à jouer cette ambiguïté entre le mur et la fenêtre qui est le tableau.
Et on a comme une sorte, alors ça dépend des tableaux, parce que c'est un procédé que vous avez utilisé plusieurs fois, mais j'ai envie de dire un peu pour dire des choses différentes. On a comme une sorte de mouche à rabier, et puis vous pouvez réintervenir dessus une fois que la toile est de nouveau sur châssis, arriver avec une troisième, voire une quatrième temporalité, Olivier Massemontagne. Et après, c'est quoi, vous, petit à petit, le poussin est loin, vous lui faites un coucou lointain, ou il est toujours là?
Tantôt, il réapparaît, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la technique, ce n'est pas seulement de la technique. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec cette histoire de sérigraphie où je me dis, ah tiens, on va rajouter un voile, on a eu comme ça 2 mois où on a travaillé presque comme des artisans à comprendre, et tout d'un coup le fait d'avoir fait la sérigraphie nous ouvrait un champ incroyable de vocabulaire picturaux qui s'enchaîne.
Et ça fait que, avec les questions, puisqu'on disait tout à l'heure, finalement, la toile, on y arrive avec des questions, on travaille avec des questions, parfois elle renvoie des réponses ou encore des questions. Une fois que ce grand œuvre copié de Poussin est un peu caché par la sérigraphie, la question qui arrive, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je peins moi? Qu'est-ce que j'ai à dire après Poussin?
Oui, c'est essayer de se confronter aussi à des grandes œuvres en se disant peut-être qu'il y a une partie de la solution qui est là. C'est-à-dire que je sais pas ce que c'est qu'une œuvre d'art. J'ai aucune réponse. Par contre,
Vous vous demandez ce que c'est.
Ah oui, je me demande ce que c'est. Et puis je pense que je suis animé aussi par l'ambition du chef-d'œuvre. C'est-à-dire que le XXe siècle a vu un peu la remise en question du chef-d'œuvre avec les avant-gardes, avec tous ces sujets. Et ce qui caractérise aussi ma génération, c'est un peu le retour par le métier. C'est ça qui est assez amusant aussi, par le côté artisan, par le retour aussi sur l'histoire de l'art et la citation, à essayer de renouer avec cette ambition du chef-d'œuvre qu'on voit apparaître chez beaucoup d'artistes aujourd'hui.
Et qui serait quoi pour vous, si vous essayez de le conjuguer vraiment, à savoir qu'est-ce que vous, ça vous raconte, le chef-d'œuvre Olivier Massemontagne? Ou alors c'est qu'une question de rapport à l'histoire de l'art?
Non, je pense que l'ambition du chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui est lié au temps. C'est-à-dire que peut-être le fantasme de tout homme, c'est l'immortalité. Et on sait que le chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui touche à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, la jeune fille à la perle, on est tous émus devant, alors que le tableau, il a été peint il y a plusieurs siècles? C'est que quelque part, le peintre qui l'a créé a touché, d'une manière ou d'une autre, à une forme d'intemporalité et d'immortalité.
Et vous dites pas hasard, quoi. Vous dites pas hasard et circonstance. Vous vous dites, il y a quelque chose dans la jeune fille à la perle qui fait que ça va mourir, mais ça va mourir dans beaucoup plus longtemps que nous.
Exactement. Je le pense, parce que comment ça se fait que, à travers les siècles, comme ça, ce regard est interrogé autant de personnes? Pourquoi le tableau de Poussin interroge autant de personnes aujourd'hui? Les bergers d'Arcadie, ça a rempli des bibliothèques entières de commentaires sur qu'est-ce que ce tableau amène. Et en fait, y a un moment où un artiste a réussi à capter ça. Mais je pense que chaque artiste ne le maîtrise pas, ça. C'est quelque chose qu'on touche à peine, et on en aura même peut-être jamais conscience. C'est-à-dire que peut-être que Vermeer savait pas qu'il faisait un chef-d'œuvre au moment où il a fait un chef-d'œuvre, mais il se trouve qu'il en a fait un.
Mais vous cherchez quand même une clé.
On cherche une clé, on cherche à se surprendre aussi soi-même, parce que dans ce jeu du miroir qu'on a dans l'atelier, il y a des moments particulièrement grisants où tout d'un coup on a l'impression qu'on a fait quelque chose qui est pas mal. Et ça, c'est une sensation que je pense tous les peintres et tous les artistes cherchent. C'est le moment où on se surprend soi-même à être son propre spectateur et son spectateur admiratif.
Mais ça dure pas.
Et ça dure pas. Enfin, ça dure pas. On va regarder avec une tendresse ces tableaux où on sait qu'il y a un moment ça s'est passé.
Et chercher.
Et on le cherche en permanence.
On a dépassé l'époque classique. Ça veut dire avant tout quoi? Ça veut dire qu'on a outrepassé les règles. Si on prend un paysage de Corot par rapport à un paysage de Matisse, on s'aperçoit que petit à petit, on quitte la nature. Et pour Matisse, la nature ne devient plus qu'un alibi et le sujet du tableau devient Matisse lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'évolution de l'originalité qui tout d'un coup va être définitivement cassée par Marcel Duchamp. Après Duchamp, l'originalité n'a même plus de sens, parce que à partir du moment où il avait inventé un ready-made, et comme son nom l'indique, c'est un objet déjà fait, un objet de bazar. Il avait pris un urinoir, il avait pris un porte-bouteille, il l'avait accroché dans une galerie, Et elle avait dit, puisque moi j'ai décidé de l'accrocher dans une galerie, c'est donc une œuvre d'art. Ça veut dire que dans l'univers des formes, la boucle est bouclée. Et moi j'arrive dans ces générations après, où tout d'un coup, on a envie de dire que tout a été fait. C'est un peu comme si tout a été fait. C'est pas parce que tout d'un coup, on va écraser une toile contre un mur, ou la brûler. D'ailleurs, brûler une toile, c'était fait. La trouer, Fontana l'a fait. La déchirer, c'est pareil. Devant cette situation, on est débarrassé de l'originalité. Moi, je viens donc dans une génération où je me débarrasse de la forme au point tel que je prends sa forme classique. J'ai rien besoin d'inventer. C'est pas parce que la peinture à l'huile a été inventée, que l'acrylique existe, que tous les procédés existent, que de toute façon, il faudrait que j'invente une nouvelle forme. Ce n'est pas parce que on est à une époque où il existe des violons, des pianos et des synthétiseurs, qu'il faut absolument jouer du synthétiseur. Quand on joue du piano, on n'est pas essayiste pour autant. C'est là où est le défi, mais c'est là où est la modernité. C'est-à-dire que ce qui est moderne dans ma peinture, c'est qu'elle s'est débarrassée de l'originalité, et l'évolution de l'histoire de l'art, tout d'un coup, importe peu. L'empreinte de la main de l'homme préhistorique sur la grotte est tout aussi contemporaine que le dernier d'Andy Warhol.
On termine avec une dernière voix de peintre, Gérard Garouste, au micro de Frédéric Zingaro sur RFI. En 2003, Olivier Masse-Monteil, finalement, ça fait aussi une boucle avec le début de notre entretien. Gérard Garouste qui dit qu'il a fallu, dans sa peinture, enlever la question de l'originalité, enlever finalement une conception d'histoire de l'art comme quelque chose qui progresserait.
Exactement.
Et ça me semble peut-être parler aussi de votre pratique.
Oui. En fait, on a terminé un 20e siècle qui, avec les avant-gardes et l'idée d'art contemporain, avait peut-être induit une forme de linéarité de l'histoire de l'art, mais avec une notion de progrès derrière. C'est-à-dire que on allait toujours vers quelque chose et que l'art avait une direction. Et moi, je pense que l'art, en fait, n'a pas de direction. Il y a une multitude d'artistes qui ont des pratiques très différentes. Et en fait, il n'y en a pas un à la place de l'autre. Et Gérard Garouste le dit très bien là dans cet entretien. C'est-à-dire que, est-ce que l'art est contemporain ou est-ce que l'art est intemporel?
Et pour vous, il est plutôt intemporel et il passe par la singularité de chacun.
Exactement.
Et surtout, quand il discute avec d'autres singularités, on n'a pas beaucoup parlé, mais on n'a pas eu le temps de parler de la manière dont votre travail peut parler avec le travail de Nicolas Aubagnac. Peut-être juste un tout petit mot, parce que sur cet exemple du tableau de Poussin, vous faites ressortir les objets, et c'est montré juste à côté d'objets qui sont designés par lui. Qu'est-ce que ça procure, ce dialogue-là?
Alors moi, ce que j'aime beaucoup à la galerie Scène Ouverte, c'est ça, c'est-à-dire le dialogue qui peut y avoir aujourd'hui entre une œuvre d'art, un mobilier et même un intérieur, c'est-à-dire comment on vit avec une œuvre d'art. Chez Thomas Bernard, on va avoir plus l'expérience quelque part du white cube, c'est-à-dire cette façon de montrer le tableau
et puissance de la peinture en pleine
exactement.
Face.
Exactement. Mais aujourd'hui, et j'en discutais avec beaucoup d'artistes, certains reviennent un peu du white cube en se disant oui, mais c'est quelque part c'est trop facile. Le white cube. C'est-à-dire que sur un fond blanc, on met n'importe quoi, tout de suite ça claque. Alors que aller se mettre dans un environnement avec un décorateur qui a fait une table, avec un décorateur qui a travaillé un mur, une matière, des choses comme ça, il faut que l'œuvre, elle arrive à tenir aussi. Faut qu'elle joue sa place, peut-être de fenêtre sur un monde. Et c'est vrai que Laurence Bonnel, qui s'occupe de la galerie Scène Ouverte, le fait très très bien.
Des considérations concrète. Olivier Masse-Monteil, on peut voir votre travail à Toulouse, à la Chapelle des Cordeliers, dans l'exposition Tandem avec Marc Desgrandchamps, dans un très beau livre aux éditions Cercle d'Art avec des textes qui les nourrissent, ces œuvres qui sont montrées, chez Thomas Bernard jusqu'au 28 février et à la Scène Ouverte jusqu'au 23 février. Merci beaucoup.
Merci.
Au son ce soir, c'était Philippe Mercher, à la réalisation Charlotte Roux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et en vous abonnant au podcast de Parler Temps qui court. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier, Anne Toscane Vuedes qui m'ont aidé à préparer et penser cette émission comme tous les jours. Dans un instant, vous allez retrouver le journal, vous allez l'écouter. Très belle soirée sur France Culture, je vous dis à demain.